Voter aussi, c'est l'institut du bon pasteur, monsieur l'abbé de Tannouarn, et c'est évidemment quelque chose de tout à fait intéressant, parce que même si là aussi, comme vous me le disiez tout à l'heure, il faut attendre un petit peu le recul du temps, mais nous avons là sur le plan canonique, sur le plan du droit canon, un statut qui me paraît relativement intéressant, relativement avantageux, au point que, et je l'avais un petit peu laissé entendre il y a quelques mois, au point même que les tenants d'Ecclesia Dei au sens strict sont un petit peu dans la position du frère aîné, du fils prodigue. Et vous-même, le jour de la conférence de presse, pour annoncer le bon pasteur, vous disiez qu'on avait tué le veau gras. Bon, alors est-ce que vous êtes toujours d'accord?
Oui, c'est-à-dire qu'on a effectivement reçu de Rome avec une grande magnanimité ce droit absolu de célébrer la messe traditionnelle sans avoir besoin de donner en caution je ne sais quelle célébration ou concélébration selon le rite nouveau. Et c'est la première fois que non seulement Rome accorde le rite traditionnel comme étant le rite propre d'un institut, mais qu'il confirme, et ça c'est, bon, c'est un terme juridique qui peut être encore un peu codé, mais qu'il est confirmé dans nos statuts que nous en avons l'usage exclusif. Donc c'est un point très important. Par ailleurs, dans l'acte d'adhésion que nous avons tous signé, eh bien nous engageons à une critique constructive du Concile Vatican II. Par conséquent, si vous voulez, nous ne sommes plus considérés seulement, c'était un peu l'esprit enfin du motu proprio Ecclesia Dei Afflicta publié en 1988 après les sacres. C'était Jean-Paul II écrasant les traditionalistes de toute la hauteur de sa charité et disant on peut quand même leur laisser une petite place. Bon, les traditionnalistes, après donc le 2 juillet, la signature de ce motu proprio, le 2 juillet 88, avaient une petite place. Aujourd'hui, il me semble que l'état d'esprit à Rome, c'est que la tradition, c'est bon pour l'Église, et que ceux qui la défendent doivent être explicitement soutenu, non pas limité, non pas contenu, non pas réduit à je ne sais quelle petite réserve de peau rouge, mais non pas non plus rééduqué, de façon à ce qu'ils puissent lentement revenir à la norme, mais que ce qu'ils font est bon et doit être soutenu. Ce que nous a expliqué le cardinal Castrillon, qui est à mon avis, là je n'engage que moi, l'ossature du futur texte tant annoncé sur la libéralisation de la messe traditionnelle, qui est paraît-il déjà rédigé, c'est que au fond il y a un rite latin avec deux formes. Une forme ordinaire qui est le rite que vous trouvez dans toutes les églises aujourd'hui en langue vernaculaire, rite dit de Paul VI, rite rénové, et une forme extraordinaire. Le rite traditionnel. Jusque-là, vous vous direz, mais alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de confirmer vos craintes en disant, vous avez juste une place extraordinaire? Non, parce que le cardinal continue, et il nous l'a répété plusieurs fois. Vous savez, dans la série entre l'inconvénient de se répéter et celui de ne pas être compris, il n'y a pas à avancer. Oui. Donc, il nous a répété plusieurs fois cela comme étant apparemment quelque chose de très important, et c'est pour ça que je le dis aux auditeurs. Ces deux formes du rite ont les mêmes droits. C'est très important. Cela signifie bien que le rite traditionnel n'est pas toléré, n'est pas accepté à la marge en attendant qu'une rééducation efficace puisse enfin démontrer à ceux qui le célèbrent les bienfaits du rite nouveau. Non, le rite traditionnel est encouragé d'une part, pour lui-même, avec et crédité les mêmes droits, les deux rites ont donc les mêmes droits, Et par ailleurs, est annoncé que, et déjà commencé d'ailleurs, une lente réforme de la réforme. Quand je dis qu'elle est déjà commencée, le rite nouveau se réforme petit à petit à travers, par exemple, la dernière encyclique de Jean-Paul II,
Ah oui.
Qui est en fait rédigée ultimement par Benoît XVI, très certainement, hein, qui est donc l'encyclique sur la liturgie. Où, par exemple, Jean-Paul II insistait, mais Benoît XVI insiste beaucoup, sur la valeur de l'adoration du Saint-Sacrement, sur l'importance du salut du Saint-Sacrement, autant de choses qui avaient totalement disparu, il faut le dire, de la liturgie nouvelle, et qui sont lentement réacclimatées par Rome. Donc il y a l'idée, si vous voulez, en même temps, que la liturgie nouvelle doit être aussi... rectifié petit à petit par une reprise en main. Mais cela n'empêche pas, si vous voulez, ce n'est pas la seule perspective de Rome. L'idée est aussi que le rite ancien doit trouver droit de cité et égalité absolue. Donc nous n'avons pas à faire la preuve de notre catholicisme en célébrant ou en concélébrant le rite nouveau. Nous sommes prêtres catholiques, pris et considérés comme tels. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et c'est la raison de lire et de la peur des chrétiens progressistes.
Je ne résiste pas à l'appui de votre propos à citer ce que nous avons publié, c'est-à-dire la couverture de La Vie, autrefois catholique, où on voit une photo de l'abbé Olagnier. Pourquoi cet homme devait rester de l'abbé Laguéry, pardonnez-moi, mais ça aurait pu être
absolument.
Pourquoi cet homme devait rester dehors, et nous avons mis en légende, on ne pouvait pas résister, et ça c'est La Vie ex-catholique, dont le slogan est chaque semaine un regard ouvert et généreux sur l'actualité.
Oui, c'est le genre de générosité alternative, comme on dit.
Ou sélective. Alors, Yves Amiot, en tant que président de Sensus Fidei, je pense que vous voilà, j'allais dire, comblé et récompensé dans votre patience avec l'érection de l'Institut du Bon Pasteur.
Assurément pour nous, je dirais que c'est la bonne nouvelle.
Oui.
C'est la bonne nouvelle que nous avons espérée depuis 2 ans, pour laquelle nous avons milité. Je dirais même que ça a dépassé nos espérances, et ça a montré à quel point une confiance nous était accordée. Et cette confiance, il va falloir nous en montrer digne. Et je dirais que là, nous sommes au pied du mur, c'est-à-dire que commence un nouveau combat qui aura encore plus d'ampleur et qui va être encore plus difficile que le précédent, mais qui est exaltant parce que nous avons franchi la première étape et la plus décisive, qui est d'être reconnu. C'est ça qui est fondamental. Et reconnu, je dirais, en vue d'une ouverture générale, car comme le disait tout à l'heure l'abbé de Tannouarn, la messe nous est reconnue comme étant exclusive, mais exclusive ne doit pas être entendue dans le sens que nous sommes la seule à la pratiquer, ce que certains mauvais esprits ont eu tendance à dire. Exclusive veut dire qu'il n'y a pas d'autre culte, d'autre rite que celui-là qui sera le nôtre, mais non pas que nous en avons le monopole.
Voilà, d'autres peuvent le célébrer.
Déjà, et il faut faire plus encore, donc
voilà.
Nous ne fermons pas, mais nous ouvrons une voie. Et nous ouvrons une voie à toute la tradition pour le bien commun de la tradition.
Alors, il nous reste, avant la pause, 2 minutes. Messieurs, je vais dès maintenant doucher votre enthousiasme et me faire l'avocat du diable, et le diable porte mitre. Car, malgré tout, il faut quand même bien admettre que tout cela va dépendre d'une certaine bonne volonté des épiscopes. Alors, là, à Bordeaux, vous avez eu, certainement, le cardinal Ricard a fait certainement un très gros effort personnel, mais les autres...
Vous savez, l'Église est comme toutes les institutions, les gens ont beaucoup de mal à changer leurs habitudes, les gens ont beaucoup de mal à s'adapter aux circonstances nouvelles, et je crois que le drame actuellement sentiment des évêques, c'est qu'ils vivent encore dans les années 70. Ils sont tout fiers de leur campagne, de tout ce qu'ils ont fait dans les années 70 pour l'Église, etc. Et on a l'impression que l'époque actuelle, avec ses inquiétudes, avec ses angoisses, avec son besoin de certitude, avec son besoin d'authenticité, n'existe pas. Qu'ils vivent à côté de notre époque. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment qu'ils entendent. Il faut qu'ils se rendent compte de l'époque difficile dans laquelle ils vivent. Et ils écoutent leurs fidèles. Parce que moi, je me souviens d'avoir rencontré un professeur du séminaire d'Orléans il y a quelques 20 ans. Et déjà, il me disait, il avait été ordonné par Mgr Riobé, je crois que vous connaissez cet évêque. Il était très fier de l'évêque qu'il avait ordonné, et il était tout à fait dans l'aile la plus marchande, comme on disait à l'époque, ou la plus progressiste de l'Église. Eh bien, il m'a dit deux choses. Il m'a dit, premièrement, je m'appelle Claude et je connais pas le latin, ça te choque? J'étais au service militaire. Je réponds non, bien entendu, chacun son parcours. Enfin, je veux dire, c'est pas votre faute si vous connaissez pas le latin. Et il me dit, de toute façon, la tradition, j'en fais, on m'en demande. La tradition, j'en fais, on m'en demande. Et ça fait 20 ans que j'ai entendu ça. Il serait temps, peut-être, que les évêques entendent la même chose.
Et c'est vrai problème, et comme le dit l'abbé, le rôle des laïcs, en l'espèce, est fondamental. Il faut qu'à tous les niveaux de l'Église, les laïcs montrent et démontrent à leurs pasteurs quels sont leurs véritables besoins, au lieu que ceux-ci s'enferment dans une niche confortable. Voilà.